Le journal, présenté par Sébastien Berriot.
Bonsoir.
Dans ce journal, l'Italie qui va devoir se trouver un nouveau gouvernement après la démission de Giuseppe Conte cet après-midi. Avant de partir, le président du Conseil a réglé ses comptes avec le chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui est à l'origine de cette crise politique. On appellera Antonino Gallofaro à Rome. En pleine manifestation pro-démocratie à Hong Kong, un employé du consulat de Grande-Bretagne est porté disparu depuis le 8 août. L'homme aurait été arrêté à Shenzhen, du côté chinois de la frontière. Le Foreign Office exprime sa vive inquiétude. Et puis en France, le Pays Basque quadrillé par les forces de sécurité, 13 200 gendarmes et policiers déployés pour assurer la sécurité du G7 qui démarre vendredi à Biarritz et aussi encadrer le contre-sommet qui lui a déjà commencé à Hendaï, à la frontière avec l'Espagne. Matteo Salvini, tout sourire cet après-midi devant le Sénat à Rome. Le ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite aura atteint son premier objectif politique de l'été, la fin du gouvernement populiste de Giuseppe Conte. Lâché par la Ligue, le président du Conseil n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer sa démission tout à l'heure devant la chambre haute du Parlement italien. Giuseppe Conte sur le départ, mais qui a profité du débat au Sénat pour régler ses comptes avec son ministre de l'Intérieur. À Rome, le récit d'Antonino Gallofaro.
Giuseppe Conte était très remonté. La décision de Matteo Salvini d'ouvrir une crise politique est pour lui grave. Le Premier ministre, bien que sur un ton très calme, est sorti de ses gonds.
Cette crise interrompt prématurément un gouvernement qui, en un an, avait produit beaucoup de résultats. Elle fait courir de graves risques à notre pays. Une crise en plein mois d'août, avec des élections anticipées probables à l'automne, font que ce sera hautement improbable que nous puissions adopter notre loi de finances dans les temps. J'ajoute que cette crise intervient à un moment délicat dans nos relations avec l'Union européenne. L'Italie court le risque de participer à ces discussions dans une position de grande faiblesse. C'est pour tout cela que je dis que le ministre de l'Intérieur a suivi ses intérêts personnels et ceux de son parti.
Matteo Salvini est à côté de Giuseppe Conte pendant qu'il parle. Il fronce ses sourcils, il sourit, mais le chef du gouvernement démissionnaire ne se retient pas. Le fait que Matteo Salvini demande aux électeurs les pleins pouvoirs l'inquiète, mais il se réjouit que l'Italie ait les anticorps pour éviter toute dérive autoritaire. Après une heure, le chef de la Ligue retourne parmi ses sénateurs et réplique « Je referai tout ce que j'ai fait ».
Et ce soir, le président italien a accepté la démission de Giuseppe Conte. C'est la confusion qui règne ce soir sur le sort des 80 migrants de l'Open Arms. Après 19 jours de blocage en mer, à peine quelques centaines de mètres de l'île italienne de Lampedusa, le bateau humanitaire espagnol se retrouve pris en otage dans un bras de fer entre l'Italie et l'Espagne. Lassé par les refus à répétition de Matteo Salvini, le gouvernement espagnol a annoncé dans l'après-midi l'envoi d'un navire militaire pour venir chercher les migrants. Mais ce soir, la justice italienne a ordonné le débarquement des réfugiés à Lampedusa. On ne sait pas encore quand ce débarquement pourra avoir lieu. L'inquiétude du Foreign Office à Londres sur le sort d'un employé du consulat britannique de Hong Kong, alors que l'ancienne colonie est secouée par des manifestations qui irritent le régime chinois. La Grande-Bretagne est sans nouvelles de cet employé depuis le 8 août. Il serait détenu justement en Chine après avoir été arrêté à la frontière entre Hong Kong et la ville chinoise de Shenzhen. À Londres, précision de Marina Daras.
Simon Cheng n'a donné aucun signe de vie depuis 12 jours. Il était censé rentrer d'un voyage d'affaires à Shenzhen en Chine lorsqu'il a été intercepté à la frontière. Le jeune homme de 28 ans travaille dans le développement commercial de la section écossaise du consulat du Royaume-Uni à Hong Kong. D'après l'agence de presse locale, Simon Cheng était dans le train en direction de Hong Kong lorsqu'il a contacté sa petite amie et lui aurait demandé de prier pour lui avant que la communication ne soit coupée. En Chine, une détention administrative peut durer jusqu'à 15 jours sans qu'aucune raison ne soit donnée ce qui inquiète fortement le ministère des Affaires étrangères britannique, d'autant plus que l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni avait demandé à la Grande-Bretagne de ne pas se mêler des affaires intérieures chinoises à la suite de violences lors de manifestations historiques contre le gouvernement. Depuis près de 3 mois, les manifestants hongkongais réclament des réformes démocratiques face à l'érosion des libertés ainsi que la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, accusée d'être pro-Pékin.
Aux États-Unis, le département d'État annonce la reprise des pourparlers de paix avec les talibans en Afghanistan. Le négociateur américain doit quitter Washington demain pour se rendre d'abord au Qatar, puis à Kaboul. L'objectif est de négocier la fin des violences avec les talibans, ce qui permettrait aux États-Unis de retirer leurs troupes d'Afghanistan. C'est ce que souhaite Donald Trump avant la prochaine présidentielle. Les États-Unis, qui entretiennent des relations compliquées et tendues avec la Russie, mais cela n'empêche pas Donald Trump ce soir de tendre la main à Vladimir Poutine. Le président américain se dit favorable à un retour de Moscou au sein du G7. Le prochain sommet, on le sait, démarre vendredi à Biarritz. Et sur place, au Pays Basque, c'est un très gros dispositif sécuritaire qui a été mis en place. 13 200 policiers et gendarmes déployés. Il s'agit bien sûr d'assurer la sécurité des chefs d'État et de leurs délégations, mais aussi d'encadrer le contre-sommet, les altermondialistes et les syndicats qui, eux, sont installés à Hendaï et à Irun, côté espagnol. Sur place, envoyé spécial Rosalie Lafarge.
Des moyens majeurs, nécessaires et adaptés, souligne d'emblée le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner promet une fois de plus la tolérance zéro.
Il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles.
Pour assurer la sécurité du sommet comme du contre-sommet, l'exécutif déploie une surveillance renforcée sur terre, en mer également, mais aussi dans les airs, précise le secrétaire d'État Laurent Nunez.
Il y aura bien évidemment utilisation de drones, mais surtout, nous avons aussi un dispositif anti-drone qui est très important, prêt à détecter toute intrusion de drones dans les périmètres interdits de survol de manière permanente ou à titre temporaire.
Avec cet arsenal important, l'intérieur espère faire face à 3 menaces majeures, la menace terroriste, la cybermenace et donc la menace de débordement. Mais là-dessus, le maire centriste de Biarritz, Michel Venac, n'est pas inquiet.
Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de la violence des casseurs ou des black blocs, ni le contre-sommet qui a le droit de s'exprimer. Ils sont contre le G7, ils ont le droit de le dire. Ils n'ont pas intérêt non plus, effectivement, à de la violence dans leur rang, parce que leur message deviendrait inaudible, et nous non plus. Donc je pense qu'on a cet intérêt commun de tenir à l'écart les violents, les casseurs et les black blocs de tout poil.
Mais si les mots des autorités se veulent rassurants, 300 places en cellule ont tout de même été dégagées pour les éventuels gardés à vue, dans un centre de rétention administrative à Hendaï ou encore dans des préfabriqués installés derrière le palais de justice de Bayonne.
Et avant le G7, 5 personnes ont été placées en garde à vue dans plusieurs régions pour des appels lancés sur les réseaux sociaux, appels à attaquer un lieu d'hébergement des gendarmes au Pays Basque. Cet après-midi, 4 de ces personnes avaient été remises en liberté et une était toujours en garde à vue dans la ville de Melun. Un pompier victime d'une agression la nuit dernière lors d'une intervention dans les Deux-Sèvres. L'homme qui travaillait sur un feu d'habitation près de Niort a été frappé au visage par un individu alcoolisé. Ce genre d'agression contre des pompiers n'est pas rare. Au contraire, d'après les syndicats, elles augmentent chaque année de 20% depuis 2015. Difficile de prendre des mesures pour faire face. Les violences sont des causes très diverses et sont généralement perpétrées par des personnes souffrant de troubles psychiatriques, une problématique donc difficile à traiter. Écoutez ce qu'en pense Jérôme François, il est secrétaire général du syndicat UNSAS-10 et pompier lui-même dans le Val-d'Oise.
Il y a plusieurs types d'agressions, donc c'est difficile d'apporter une réponse unique. Dernièrement, est sorti un décret sur le fait que les sapeurs-pompiers peuvent désormais porter des caméras, comme les policiers. Alors ça, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour parce qu'effectivement, dans le cadre d'embuscades, ça peut nous permettre d'identifier des agresseurs, mais ça va pas régler tous les problèmes parce que la caméra a un accueil beaucoup plus mitigé chez nous, puisque on rentre chez les gens, on rentre dans leur intimité, et peut-être que la caméra sera vécue comme un intrus. Après, nous, le message qu'on veut faire passer, c'est également eh bien une tolérance zéro. Parfois, la réponse de la justice n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Sur les formations également, les sapeurs-pompiers aujourd'hui font 85%, c'est du secours à personne, c'est plus du feu. Le feu, aujourd'hui, c'est une partie, une petite partie de nos interventions. Or, la formation qu'on a sur la prise en charge des menaces de violence, la prise en charge de pathologies psychiatriques, c'est proche de zéro. On a un problème également d'articulation avec les forces de l'ordre, parce qu'en théorie, sur toutes les interventions où il y a un risque pour notre intégrité physique, on doit intervenir sous protection policière. En pratique, la police sont souvent sous-effectifs, et je prends un exemple tout bête, vous arrivez au pied d'un immeuble, derrière la porte vous entendez que ça hurle, il y a une rixe à l'intérieur, peut-être une femme battue, en théorie vous demandez la police pour rentrer, en pratique la police n'a pas d'équipe disponible, et bien qu'est-ce que vous faites? Bah, vous rentrez à vos risques et périls.
Des propos recueillis par Fiona Mogadam. Les prévisions de Météo France pour demain, du soleil quasiment sur tout le pays, 19 degrés à Cherbourg l'après-midi et 28 degrés à Marseille. Il est 22h10 sur France Culture, merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé avec Nathalie Lopez.